poésie et ainsi de suite par Manou Farine.
Aujourd'hui, l'Odyssée traduite, bruitée, jouée, familière avec Emmanuel Lascoux.
Plankta epeitroies hieron ptolietron eperesen. Polland antropon vide waste acaino negno. Pollad hogen pontoi patin alge ahon catatrum.
Emmanuel Lascoux, bonjour.
Bonjour Manou Farine.
Il n'y a pas de langue sans distribution d'intensité, dites-vous. C'est votre voix qu'on vient d'entendre, un tout petit extrait de l'Odyssée d'Homère. C'est bien comme ça d'ailleurs, comme on l'entend, que vous vivez Homère, en tout cas qu'il faudrait entendre Homère, par cette langue-là, par cette musique-là, celle du grec ancien que vous travaillez au cœur, j'allais dire, depuis très longtemps, depuis l'adolescence, on y reviendra. Tu ne traduiras pas Homère ou ce sera l'Iliade, vous êtes-vous longtemps dit, et non seulement vous l'avez traduit, mais ce sont les hexamètres de l'Odyssée que vous traduisez aux éditions POL. Qu'est-ce qui vous avait rendu cette opération-là nécessaire, Emmanuel Lascoux?
Alors, on pourrait le dire en trois mots. Comme vous l'avez fait entendre, et merci de le rappeler, c'est vrai que ça fait longtemps que moi j'essaye d'oraliser ce grec ancien. Alors vous avez dit, c'est comme ça qu'il faut. Non, peut-être pas,
qu'il
si
faudrait,
vous permettrez. Même qu'il faudrait, parce que je ne prétends pas avoir la prononciation, la diction. Comme je le dis souvent, non, on n'a pas retrouvé, tant qu'on n'a pas retrouvé d'enregistrement officiel d'Aède, il n'y a pas de version de vérité. Mais en revanche, moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est d'essayer d'oraliser en fonction des critères que la linguistique, que la philologie, que l'histoire de la langue, que l'histoire de la poétique, que les Grecs eux-mêmes nous ont transmis. On a beaucoup d'informations, en fait, beaucoup plus qu'on ne croit, pour essayer d'en faire quelque chose avec sa voix. Voilà. Après, c'est un problème que connaissent bien les musiciens. On a une partition, il faut l'interpréter, chacun l'interprète à sa manière. Bon, et il faut s'entendre un peu sur la partition. Bon. Donc moi, j'ai d'abord essayé d'oraliser. Et puis, à force d'oraliser ce grec, et c'est vrai, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'Iliade, également sur l'Odyssée, mais comme chercheur, etc., on est plutôt de l'une ou de l'autre des épopées quand on est homérisant, tout en aimant les deux. Mais on en regarde une à partir du point de vue de l'autre. Il se trouve que, ensuite, je me suis dit, bon, tu oralises, maintenant, il faut réaliser, d'accord ? Et réaliser en français, pour les autres, parce que effectivement, un traducteur, c'est quand même quelqu'un qui, non pas n'est pas satisfait des traductions existantes, mais se dit que, de son point de vue, ça sonne peut-être un peu différemment, ce qu'il voudrait entendre, voilà, cette espèce de rêve. Mais pour réaliser en français cette traduction, ou ce que j'appelle cette version, il m'a fallu adopter des choix, et je jouerai un peu sur les mots, il faut réoraliser. Voilà, réaliser, c'est réoraliser le français. Et c'est ça qui me faisait peur.
On va revenir bien sûr sur ces stratégies mises en place. Finalement, donc l'Odyssée plutôt que l'Iliade, alors que vous expliquez bien dans le long texte qui accompagne cette traduction que vous avez commencé par habiter littéralement l'Iliade, vous dites que vous avez longtemps été trop pur, trop Achille au petit pied pour accepter Ulysse. Hein. Qu'est-ce qu'il faut donc pour accepter Ulysse, Emmanuel Lascoux?
Il faut vivre. Il faut vieillir. Il faut se rendre compte que la grandeur d'Achille, la grandeur absolue, la grandeur abrupte, Homère dit de la mort, aepusoletros, la mort abrupte. La mort est comme une paroi lisse qu'on ne peut pas, sur laquelle on ne peut pas s'accrocher. Achille est abrupte. Il a une immense humanité. Achille est un Rimbaud figé dans sa jeunesse par la mort, un adolescent éternel d'une certaine manière, après on lui donne l'âge qu'on veut, peu importe. Voilà, donc quand on vieillit, quand on transige, quand on sait que finalement il faut être modeste dans son héroïsme et que si déjà on arrive après toutes ces galères à rentrer chez soi, c'est pas mal. Et voilà ce qui fait que je me suis retrouvé progressivement habiter l'Odyssée.
Ulysse, dites-vous Emmanuel Lascoux, il faut l'être vraiment au moins une minute, une fois dans sa vie. Il faut pouvoir entendre comme lui ce qu'il a entendu du chant des sirènes. Est-ce que vous pourriez nous le faire entendre ?
Deuragion, poluain odusseu, megakudo sacraion, ne wakatasteson. China no itere no pacoseis, etc. Viens ici, viens par ici, mon bel Ulysse. Gloire aux joyaux des Achéens. Arrête un peu ton vaisseau, etc. Bon, ça c'est ma manière. Le chant des sirènes, j'ai trouvé une image il n'y a pas très longtemps. On tâtonne tous quand on est dans Homère. Pourquoi ? Parce qu'on essaye tous de faire comme lui. Tous et toutes, et vous savez qu'Homère procède par comparaison permanente, pour nous faire comprendre quelque chose, la moindre chose, soit le sentiment le plus complexe, soit l'objet le plus simple, il va utiliser une comparaison. Et je pense maintenant que ces sirènes, qui sont deux uniquement, on oublie un peu qu'elles sont deux, parce que c'est dans une forme duelle en grec, ces sirènes qui sont deux, sont sans doute nos deux oreilles, et ces sirènes sont les acouphènes de l'histoire de la poésie occidentale. Voilà.
Vous vous souvenez quand vous l'avez entendu pour la première fois, le chant des sirènes, Emmanuel Lascoux ?
Ça, c'est une question difficile. Quand est-ce que chacun entend le chant des sirènes pour la première fois ? Je ne sais pas s'il y a une première fois. Ou alors tout enfant, oui, sans doute. Sans doute.
Parce que vous racontez comment le grec ancien vous vient à l'adolescence, après la musique, hein, parce que d'abord il y aura Bach, d'abord il y aura Mozart, enfin, la musique est toujours là avec vous, elle vous accompagne, on va y revenir. Mais vous racontez comment le grec vous arrive, comment Homère vous arrive, d'abord l'Iliade donc. Quelle adolescence qu'il faut être pour s'en remettre ainsi à une langue, à un texte, hein.
Oui, vous dites s'en remettre, c'est vraiment ça. J'ai été un adolescent moyen du 19e siècle. Je me suis juste trompé de siècle, mais c'était tellement banal au 19e siècle, cette affaire-là, jusque dans les années 20, 30, 40, quel était l'adolescent qui avait pas été fasciné dès les petites classes, ou par l'entourage de ses parents, ou par un professeur, ou voilà, c'était un passage obligé, qui malheureusement n'est plus obligé et s'est perdu. Mais rien que de normal à cela. On est, depuis Homère, tous les Grecs eux-mêmes, puis les Latins, puis un peu moins les médiévaux, mais ensuite les Renaissants, de tous les, en tout cas les pays européens en particulier, mais naissent à Homère à un moment ou à un autre. Donc, voilà, moi, ça s'est fait comme ça. Alors après, le problème avec Homère, c'est que il y a pour tous un passage par Homère, et puis soit on passe par lui, soit on y reste coincé. Moi, j'y suis juste resté, c'est tout.
Mais pas coincé.
Non, pas coincé du tout. Ou plutôt, si, coincé par, forcément, des manières de le transmettre, peut-être un peu académique, peut-être un peu... voilà, on rencontre des grands homérisants qui vous donnent le feu sacré, et puis après on se rend compte que les études homériques c'est une chose particulière, avec ses traditions, etc. Et puis, il faut arriver ensuite à faire sa place, à trouver son mode justement de musique.
On va y venir à la musique, évidemment, hein, mais vous dites, puis après on va peut-être s'arrêter là pour ce qui est de cette quasi-obsession, hein, mais vous dites « je cherche partout, toujours, dans le moindre de ces interstices, où le mettre, hein, je le trouve partout ». Et à vous lire, et en tout cas à lire cette longue préface, on croirait presque que, alors bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais on croirait presque qu'Homère suffit, que tout serait déjà là et que tout ce qui suit, au fond, ne serait qu'un retour.
Alors ça, effectivement, on force toujours le trait. Hein, quand on doit présenter une œuvre pareille, on est tellement petit que, évidemment, ça tient de l'illusion rétrospective. Évidemment, Homère ne suffit pas. Heureusement qu'il y a eu Beckett, Proust et tous les autres après, et qu'il y en aura après. Homère ne suffit pas, sauf que il suffit à la voix. Oui, Homère suffit à la voix.
C'est-à-dire...
Après, eh bien, Homère n'est pas un écrivain. L'œuvre d'Homère n'est pas exactement le début de la littérature, elle est juste avant. Et alors là, j'engage tout le monde à se précipiter, le lecteur n'est pas germaniste, sur l'édition qui est faite actuellement, qui sort en français des Philologica de Nietzsche. Parce que celui qui a tout compris, évidemment, à ce problème d'un Homère qui est né avant... La littérature grecque est née à une époque non littéraire. C'est ce que dit Nietzsche dans ses premiers cours quand il était prof de grec à Bâle. Et là, il montre le premier, ce que la critique aujourd'hui ressasse un peu, ce qu'on appelle l'esthétique de la réception. Il montre que pour comprendre Homère, donc la littérature grecque, puisque les Grecs eux-mêmes... Ce que vous venez de dire, c'était déjà le credo des Grecs. Homère a tout dit. Comment faire après lui? Mais il a tout dit. Il n'a pas tout écrit.
Poésie et ainsi de suite, Manu Farine.
Et toujours sur France Culture, aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson, à la réalisation François Connac avec la collaboration de Thierry Beauchamp et avec nous en studio Emmanuel Lascoux pour sa traduction vivace. Je dirais, de l'Odyssée d'Homère. On aurait pu écouter un extrait de Don Giovanni, de Mozart, que vous avez découvert la même année que l'Iliade, si je ne me trompe pas. Double cri, dites-vous, mais vous avez choisi de nous faire entendre ça. De l'Intermezzo opus 110, numéro 6 de Brahms par Richter. Pardon, c'est dur de le couper. Intermezzo que vous avez voulu nous faire entendre avec promesse de démonstration, Emmanuel Lascoux. Je vous attends. Qu'est-ce que vous vouliez faire entendre?
J'ai dit tout à l'heure que Homère vous incite à la comparaison. Et quand Homère fait des comparaisons, ces comparaisons, comme on dit, ne sont pas raisons. Ce sont ce que j'appelle des portes ouvertes en plein air. Homère, sa création, c'est de vous amener à rapprocher des choses qui sont quand même loin l'une de l'autre, pour que ce rapprochement vous entraîne dans d'autres directions.
Par exemple.
Et Brahms. Pourquoi Brahms? Moi, j'ai toujours vu, et je suis pas le seul, hein. Par exemple, il y a un grand platonicien, lui aussi musicien, qui s'appelait Evangelos Moutsopoulos, qui a écrit un livre, Poiesis et Techné, où il écrit des articles sur les Grecs, et puis de petites entrefilées sur Brahms. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de la musique occidentale, on sait tous que Brahms est un épique tardif. C'est une sorte de poète épique de la musique qui passait pour un conservateur, qui passait pour un poète musical, un musicien un peu has-been, hein, qui aurait été encore esclave de Bach et de Mendelssohn et des grands contrapuntistes, et qui en fait annonçait Schoenberg. Et pourquoi? Parce que dans ce petit intermezzo, opus 118 numéro 6, qui est une des dernières pièces pour piano de Brahms, il y a tout cet art de la miniature gigantesque. Vous avez une espèce de petite variation sur trois notes, qui est comme s'il était en train de tisser deux, trois fils ensemble, on ne sait pas où il va, et tout d'un coup, vous avez, remontant du fond de son océan, une basse énorme. Et Brahms, c'est celui qui est capable de construire une épopée, mais non pas en 12 000 vers, mais une épopée en 10 pages, 8 pages, 6 pages, 4 pages de musique. Voilà. Et cette manière de découper des micro-motifs pour en faire du gigantesque, j'ai toujours considéré que c'était finalement plus proche du travail, du rapport entre le détail et l'immensité dans le vers homérique que bien d'autres points communs qu'on a l'habitude de donner pour expliquer ce que c'est que la merveille du détail dans l'épopée. Voilà. Donc pour moi, Homer est peut-être plus brahmsien. Voilà, mais c'est tout à fait subjectif aussi.
Ça me va très bien. Et puisqu'on en est à la musique, Emmanuel Lascoux, Homer intraduisible, prévenez-vous, évidemment, dans votre texte préalable. Trop de musique dans le grec, dites-vous. Qu'est-ce qui ferait du grec ancien une langue si musicale, trop musicale pour nous ?
Alors, trop, là encore, c'était trop pour que j'arrive, pour que j'ose traduire. Ça voulait dire trop pour que j'ose traduire. Toute langue est musicale, on ne va pas reprendre les querelles des bouffons, les querelles entre Rousseau et les autres. Est-ce que le français peut se chanter ? Est-ce que l'allemand est une langue qui se chante ou pas ? Etc. Évidemment, toute langue se chante. Donc le grec ancien comme les autres. Sauf que on sait maintenant la forme sonore un peu qu'avait le grec ancien, et on sait déjà depuis longtemps en Occident que ce grec ancien finalement avait des intonations qui permettaient de préserver les alternances entre des durées. Vous avez dit, et je vous en remercie, vous avez commencé par ce mot merveilleux d'intensité, des intensités comme aurait dit Deleuze, et puis des hauteurs. Donc finalement, pour articuler du grec, on a des accents, on a des quantités. Il faut arriver à solfier, à mélodiser. Voilà, pour essayer quand même de voir ce qu'il y a là-dedans.
Alors comment le français peut se consoler, disons, de la perte de cette musicalité du grec ancien ?
Ben, je dirais, le français n'a pas du tout à se consoler, puisque le français a sa musique. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas du tout un nostalgique, hein. Autant l'Odyssée, c'est le poème du nostos, du retour. Moi, je ne veux pas, je ne prônerai pas une espèce de retour. Donc, je ne suis pas pour le calque ou le retour. Ah, non. Il faut, en revanche, trouver dans la musique, dans les musiques des langues françaises, parce qu'il y a plein de français, plein de langues françaises, y compris un peu dialectales. Je me suis amusé. Même
dans les accents, hein, parce que certains des personnages, vous donnez un accent.
Bah, parce que moi, j'ai des accents à certains des personnages. Un peu méridional. Alors, ma grand-mère, elle était du sud-ouest, alors elle disait beaucoup pardi, elle avait un accent du midi, et puis j'ai entendu. Puis moi, je vis en Normandie, donc c'est un accent très différent. Donc voilà, cette dialectologie homérique, on a des moyens. Nous en français de la rendre, mais surtout ce que je voulais essayer de trouver, c'était des pulsations assez libres et des possibilités infinies de variation. Puisque comme on l'a entendu chez Brahms, les grandes noces de la poésie et la musique, c'est dans la variation. C'est pas dans le thème, c'est la variation.
Est-ce que vous voulez bien, Emmanuel Lascoux, nous lire quelques vers dans la langue de départ et dans celle d'arrivée?
Oui, je vais les dire en hommage à mes chers hellénistes rouennais qui travaillent là-dessus en ce moment avec moi. On est au chant 21, c'est la fin du chant 21, c'est le dernier moment avant la fin, le moment fatidique. Ulysse déguisé en mendiant dans le palais des prétendants, chez lui, alors que sa femme ne l'a pas reconnu, eh bien, se voit passer son fameux arc. Et il va être évidemment le seul à réussir à le tendre, cet arc, avant de massacrer les prétendants.
Χος αρρυπαν μνεστέρης, αταρπολούμ ετις οδουσσέους, αότικε πέι μεγατόξονε βάστας εκαί βίδε παντε, χος χωταν ερ πορμίγκος επίσταμενος καί αοίδες, ρε βιδιός ετανούσε νεόι περί κόλλοπι κορδέν, χαψάς αμποτερότεν εύστρεπες εντερον οιος. Χος αρατέρς φοδές, τάνους εν μεγατόξον οδουσσέους, δεξιτερα δαρακήρι λαβόν. Πήρε σατον εουρές.
Voilà ce qu'on dit chez les prétendants. Mais Ulysse, quelle ruse! Regardez comme il le soupèse, son grand arc, comme il le scrute. On dirait, n'est-ce pas, un expert de la sitar et du chant poétique qui, d'un tournemain, tend une corde sur sa cheville neuve, un bon boyau de brebis bien torsadé, vous savez, en l'accrochant aux deux extrémités. De même Ulysse. Aucun effort. Ça y est, il l'a tendu, ma parole, le grand arc. Regardez sa main droite dont il essaie la corde maintenant. Ting ! Merveilleux, non, comme elle chante. Un vrai gazouillis d'hirondelle. Sentez l'angoisse inexorable étreindre alors les prétendants. Leur teint se décompose à vue d'œil. Bram ! C'est Zeus ! C'est son tonnerre ! Son grand signal.
Merci beaucoup. Alors c'est chanté, mais c'est chanté avec les mains. C'est dommage que vous ne puissiez pas le voir. On manquera de temps, Emmanuel Lascoux, pour évoquer tous les choix que vous avez faits pour traduire, mais j'aimerais quand même qu'on puisse évoquer quelques partis pris forts inédits, je pense. Je pense notamment, alors non, on l'a entendu un tout petit peu dans l'extrait que vous nous avez lu, dans les quelques vers que vous nous avez lus, je pense aux onomatopées, aux nombreux craques, paf, bam et autres. Alors je ne sais plus là, c'était ting qui se glisse
une seule fois, ce ting,
dans les vers. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il fallait, enfin qu'il fallait, je sais que vous n'aimez pas ce verbe, mais bruiter Homère pour le traduire, ça voulait dire quoi?
Ben, ça veut dire que sur le grand curseur qui va du chant d'un côté, en passant par la parole vers le cri, donc on va dire de l'animal ou des éléments naturels vers l'homme, eh bien, il fallait rendre hommage avec les moyens du bord, tous les moyens du bord. Il fallait faire feu de tout bois. Et dans une langue, il y a, même conventionnelles, elles sont, je n'en ai pas inventé, là, ce sont celles de la BD, ce sont celles des les onomatopées conventionnelles. Mais pour rendre le fait que dans un vers grec d'Homère, et c'est ce que j'essaye avec d'autres de faire entendre, il y a de tels jeux anagrammatiques, de tels effets d'écho sur les moindres phonèmes, que finalement, ça grouille de sonorité. Ça grouille de sonorité, et voilà, j'ai utilisé... Alors, on jugera, soit avec parcimonie, soit trop, mais c'est bruitage.
Alors, il y a autre parti pris qu'on entend aussi dans les quelques vers que vous avez lus, c'est cette façon que vous avez de marquer l'adresse au lecteur ou à l'auditeur, en l'occurrence là c'était à l'auditeur. Il y a ça et là dans les vers, hein, les tiens, ou vous avez vu, ou souvenez-vous, ou attention, et qui marque très très fort la dimension scénique de ce texte. Alors, j'imagine que c'est aussi une façon de remettre le poète ou l'aide dans le texte. Qu'est-ce qu'on sait, au fond, de la façon dont Homère était entendu? Et là, je ne parle pas tellement de la prononciation, de la diction ou de l'intensité.
Oui, bien sûr. On sait que ces poètes itinérants, comme des griots africains, comme quantité de traditions de par le monde, ces poètes itinérants qui allaient de ville en ville, de palais en palais, à l'époque archaïque, étaient forcément en interaction, comme les jongleurs médiévaux, avec leur public. C'était des conteurs. Ce sont des conteurs, les aèdes. Et donc, comme ce sont des conteurs, il se trouve que dans la langue grecque, il y a tout un tas de petites choses qu'on appelle des particules. Il se trouve aussi que la langue grecque ayant cette liberté, évidemment, d'ordre des mots, de présentation, d'éclairage des mots, qu'on a du mal à rendre en français, bien sûr, eh bien, tout cela peut essayer de constituer des accroches ou caser ce que j'ai décidé de faire, alors qui est un geste assez violent hein, du point de vue d'un philologue, c'est-à-dire les convertir en de l'interaction connue entre... C'est le guignol du Luxembourg. Alors les enfants, c'est ça aussi Homère. Parce que nous sommes tous enfants chez Homère.
Est-ce que ça veut dire que ça a pu piquer quelques oreilles ou quelques yeux, puisque vous parliez des philologues?
Non, mais je ne sais pas, pour l'instant, non, pas que je sache, beaucoup, oui, sans doute il y aura, et c'est normal. Encore une fois, mon petit bouclier d'osier, puisque dans l'Antiquité, il y avait des grands boucliers, puis il y avait des petites, des troupes armées à la légère. Mon petit bouclier d'osier, qui est magnifique, s'appelle les éditions POL. Je n'ai pas publié, j'ai publié Homère dans une collection de littérature contemporaine. Et non pas dans une collection de philologie.
Pourquoi était-ce si important pour vous,
Emmanuel? Bah, c'est important parce que, c'est de la littérature contemporaine.
Ça a le mérite d'être clair. Alors, une peut-être presque dernière question. Emmanuel Lascoux, vous semblez respirer Homère, chanter, peut-être même rêver Homère, je ne sais pas d'ailleurs, et je ne sais pas en quelle langue. Avant qu'on démarre cette émission, vous me disiez depuis, disons, une quarantaine d'années, désormais. Qu'est-ce qu'il a fait de vous? Qu'est-ce que cette fréquentation infinie a induit dans votre rapport au monde d'aujourd'hui?
Oh ben Homère, ça vous donne une distance, voilà. Et c'est une distance, c'est une infinie distance dans une infinie proximité. Puisque, malgré la différence, je ne nie pas, hein, je ne dis pas qu'on peut redevenir, je ne dis pas qu'on peut, on ne se prend pas pour des Grecs. Hein. C'est très loin tout ça aussi. Donc il ne faut pas non plus jouer de cette idée d'une adéquation, même artificielle ou pas. Mais... oui, c'est ce rapport en permanence de distance-proximité qui fait tellement de bien à quiconque approche cette œuvre. Homère, c'est le cœur même de l'humanité vivante et d'une humanité perdue toujours là. Donc, comme nous sommes dans un monde qui se perd, mais qui est toujours là, voilà. On est en synchronie. Dans l'anachronisme, on est toujours en synchronie.
Ça veut dire que ce serait ça, pour vous, la plus grande leçon homérique, hein ?
Plus grande, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, plus les temps passent et les époques s'approchent de ce qu'on nous prédit comme une fin, plus effectivement, Homère a des choses à nous dire et à nous chanter.
Je rappelle que votre traduction de l'Odyssée d'Homère a paru donc aux éditions POL, Maison d'édition de littérature contemporaine. Merci Emmanuel Lascoux. C'est la fin de cette émission que vous pouvez réécouter et partager sur l'appli Radio France et sur le site de France Culture. Poésie et ainsi de suite s'écoute en partenariat avec La Croix l'Hebdo et comme chaque semaine, un poème pour la route vous attend en kiosque et dans vos oreilles. Ce week-end, 1%, qui est une sorte de patchwork poétique, préparé à l'occasion de la 100e du numéro. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bon après-midi à toutes et à tous.